You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce dimanche 2 juin. En Australie, le nouveau chef du Labour, Anthony Albanese, s'apprête à annoncer le cabinet fantôme. Et le Premier ministre Scott Morrison se rend aux îles Salomon, sa première visite à l'étranger depuis sa réélection le 18 mai dernier. L'ingérence de Donald Trump dans les affaires britanniques. Et puis Liverpool couronné champion d'Europe de foot. Le Premier ministre Scott Morrison se rendra aux îles Salomon aujourd'hui dimanche avant de se rendre au Royaume-Uni et à Singapour la semaine prochaine. Son objectif sera de renouer les liens lors de son premier voyage depuis sa réélection après la victoire inattendue de la coalition libérale aux élections du 18 mai dernier. Scott Morrison voudra montrer la promesse faite par l'Australie de renforcer son engagement dans le Pacifique lorsqu'il rencontrera le Premier ministre des îles Salomon qui a été lui élu pour la quatrième fois à la présidence en avril dernier. Anthony Albanese, le nouveau chef du Parti travailliste, annonce aujourd'hui dimanche son équipe avant d'entamer une tournée autour du pays pour examiner comment son parti a perdu les élections après les résultats décevant du 18 mai dernier. Anthony Albanese a annoncé la semaine dernière la nouvelle équipe dirigeante et ministérielle, mais il n'a pas encore alloué les portefeuilles. Les portefeuilles de son cabinet et de son ministère devraient être similaires à ceux de Scott Morrison, qui ont prêté serment devant le gouverneur général, Sir Peter Cosgrove, mercredi dernier. L'ancien chef du Labour, Bill Shorten, a été assuré d'une place dans le cabinet fantôme et s'intéresse apparemment au portefeuille de la santé. Le député du Labour, Shane Newman, fait le point sur l'importance de la visite de Anthony Albanese au Queensland.
We just can't think that we can win government when we're giving away 20 seats to the LNP. It's a reminder that Queensland is the third biggest state in terms of population. The number of seats we have in federal parliament in Queensland, for example, is almost equivalent to Tasmania, South Australia and West Australia combined. It's a great reminder to us that we've got to do better in Queensland if we think we can win government.
Le député Shane Newman du Parti travailliste, un Australien détenu aux Émirats arabes unis depuis plus d'un an et demi, a parlé à SBS de son calvaire. Naïm Aziz Abbas, condamné à 5 ans de prison en décembre dernier, a fait un retour émotionnel en Australie après avoir été gracié par les autorités des Émirats arabes unis. Et lors d'un entretien avec SBS, l'expert en transport âgé de 65 ans a déclaré qu'il avait animé une conférence devant un responsable qatarien sur les licences de sécurité ferroviaire. C'était en 2012 à Dubaï. Il a déclaré avoir été choqué d'être accusé d'avoir transmis des informations à un autre pays des années plus tard.
But it is transport organization. It is not really sensitive. It's only about driver license and bus drivers and transport. It's only transport. And the superiors for me, like the managers and directors, they are the one who introduced me to this person. Like I did not meet him by myself.
Naïm Aziz Abbas a été accueilli à l'aéroport de Sydney.
When you are Australian, when you are abroad, Australia will never let you down, especially when you are innocent. Thank God, I am Australian.
Une Australienne et ses sept compagnons sont portés disparus dans l'Himalaya à la suite d'une avalanche. Une équipe de secours part à pied vers le sommet de Nanda Devi East, culminant à 7400 mètres, en espérant que le temps dégagé aujourd'hui permettra à certains chercheurs d'arriver aussi en avion. Ruth McCain est portée disparue avec 4 autres Britanniques, 2 Américains et un officier de liaison indien. Les 8 aventuriers tentaient de monter un sommet qui n'a jamais été escaladé. Le sénateur libéral de la Tasmanie, Eric Abetz, a référé le cas du limogeage du joueur de rugby Israel Folau à l'Ombudsman du Fair Work Commission et à la Commission australienne des droits de l'homme pour une enquête. Le sénateur Abetz déclare qu'il y a un intérêt public dans cette affaire parce qu'en vertu de la loi sur le travail équitable, il est illégal selon lui de discriminer contre un employé sur la base de sa religion.
I think the vast majority of Australians ask how on earth can a religious belief impact on one's capacity to play rugby. And in those circumstances, I believe that a thorough investigation by both the Fair Work Commission and the Human Rights Commission is warranted.
Le sénateur libéral de la Tasmanie, Eric Abetz, le chef de l'opposition britannique, Jeremy Corbyn, a déclaré que les propos du président américain, Donald Trump, selon lesquels le candidat du Parti conservateur au pouvoir, Boris Johnson, serait le prochain Premier ministre, constitueraient une, je cite, ingérence inacceptable dans les affaires britanniques. Donald Trump a fait cette remarque lors d'une interview avec le journal Sun avant sa visite d'État de 3 jours en Grande-Bretagne la semaine prochaine.
I know the players, I know the different players, but I think Boris would do a very good job. I think it'd be excellent. I like him very much, but I haven't gotten to any point where, you know, it's early in that process. We haven't discussed that.
Voilà, Donald Trump. Les tensions entre la Chine et les États-Unis ont été révélées lors d'un forum sur la sécurité à Singapour. Le secrétaire américain à la défense par intérim, Pat Shanahan, a déclaré au délégué de la conférence sur le dialogue Shangri-La que les États-Unis n'accepteraient plus le comportement des Chinois en Chine.
Perhaps the greatest long-term threat to the vital interests of the states across the region comes from actors who seek to undermine rather than uphold the rules-based international order.
La Chine a riposté, estimant que les actions américaines à Taïwan et en mer de Chine méridionale étaient peu favorables à l'harmonie dans la région. Le chef adjoint de l'armée de la libération du peuple, Zhao Yuanming, a critiqué Pat Shanahan pour ses commentaires.
He has been expressing inaccurate views and repeating old tunes about the issues of Taiwan and the South China Sea, towards which we are resolutely against.
Et puis la ministre française des armées, Florence Parly, qui est à cette conférence, réaffirme la liberté de navigation. Il y a eu des pressions de la Chine sur une frégate française par la marine de ce pays en avril dernier. Précision de Karine Houghton pour Radio France Internationale.
Le 6 avril dernier, la frégate Le Vendémiaire était en train de traverser le détroit de Taïwan, qui sépare la Chine continentale de l'île du même nom que Pékin revendique, quand des bâtiments militaires chinois lui ont intimé l'ordre de quitter les lieux et l'ont escorté. Le gouvernement chinois s'est même plaint auprès de Paris d'un passage qu'il disait illégal, alors que la marine française dit y naviguer au moins une fois par an. Pour la ministre des Armées, Florence Parly, la France était bien dans son bon droit et elle continuera à défendre la liberté de navigation conformément aux droits de la mer.
La France navigue en respectant les lois internationales, ce qui veut dire qu'elle navigue dans les eaux internationales. Nous n'avons pas pratiqué différemment avec le Vendémiaire. Nous avons donc respecté les règles habituelles. Force est de constater que la Chine a réagi d'une manière un peu différente à l'habitude. Mais ce n'est pas parce que la réaction a été plus vigoureuse qu'il nous faut changer nos habitudes.
Il faut s'attendre à des pressions de plus en plus fréquentes dans l'espace indo-pacifique de la part de la Chine, bien déterminée à établir le fait accompli dans les zones qu'elle veut s'octroyer.
La tuerie aux États-Unis à Virginia Beach, dans un bâtiment municipal de cette ville où un ingénieur de la ville employé depuis 15 ans a tiré sur ses collègues. 12 personnes ont été tuées. Le débat sur les armes est relancé, surtout chez les démocrates. Reportage Grégoire Portier, RFI.
Tous les candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020 se sont positionnés à différents niveaux pour un meilleur contrôle des armes à feu aux États-Unis. Tous ont donc rapidement réagi après la fusillade de Virginia Beach, la plus meurtrière dans le pays depuis le début de l'année. Trop, c'est trop, ont-ils dit en substance, mais cette question va-t-elle pour autant être au centre des débats de la primaire ? Le sujet est sensible, tant le lobby des armes est puissant avec d'excellents relais locaux jusque dans les moindres petits villages, et tant la possession d'armes à feu est ancrée dans la culture américaine. Un candidat encore anonyme, Eric Swalwell, a pourtant déjà choisi d'en faire le sujet central de sa campagne. Dans son programme, interdiction totale des armes semi-automatiques et des fusils d'assaut en stoppant leur vente et en rachetant ceux déjà en circulation. Une manière de se démarquer pour ce jeune représentant de San Francisco quand les favoris de l'élection s'attardent davantage sur d'autres sujets. Par crainte de s'aliéner certains électeurs, les mentalités semblent doucement évoluer, les plus jeunes notamment seraient bien moins attachés à la possession d'armes à feu. Parce qu'ils ont dû apprendre dès la maternelle comment réagir en cas de fusillade et parce qu'ils sont très souvent touchés directement par ce genre de drame.
Grégoire Portier pour RFI. Au Soudan, une fusillade à Khartoum a fait hier au moins 25 blessés. C'est le dernier incident entre forces de sécurité et civils dans une zone baptisée Colombie. Reportage Sébastien Hémet, RFI.
Les soldats n'ont pas fait dans la dentelle. Arrivés à bord de plusieurs dizaines de véhicules, ils ont tiré sur la foule. Michel Mohamed Abdelrahman raconte la scène.
Ils sont venus avec 20 véhicules, on a essayé de leur parler, mais ils ont tout de suite tiré sans avertissement. On est monté sur le pont, ils nous ont poursuivis et ont encore tiré.
Des civils ont alors manifesté leur colère et les militaires ont encore fait parler leurs armes. La scène s'est répétée plusieurs fois sur ce site de Colombie où drogue et alcool sont consommés. Pour Mohamed Abdallah, les soldats n'ont pas cherché à combattre le crime, mais à casser la révolution.
Les militaires sont des pervers, ils cherchent juste à tuer. Tout cela est calculé, ce n'est pas une bavure et je suis pessimiste pour l'avenir. Ces gens sont tous issus de l'ancien régime, ça va prendre du temps pour les déloger, mais on va tenir.
Les blessés ont été transportés à Al Jazeera, un hôpital de campagne ouvert durant la révolte dans l'école polytechnique. Le docteur Mohamed Barhid déplore l'attitude des militaires.
C'est une révolution pacifique et je m'oppose au gouvernement militaire. Bien sûr, si un soldat blessé vient ici, je le soignerai parce que c'est mon devoir. Pour autant, il faut que cette situation s'arrête et qu'un gouvernement civil soit nommé.
Un jeune arrivé sur une civière a levé le bras en faisant le V de la victoire, signe que les civils n'ont pas l'intention d'abandonner la révolte.
Sébastien Nemeth pour RFI. L'incendie dans un centre d'accueil de migrants en Bosnie, près de la frontière avec la Croatie. 32 migrants sont blessés. Certains sont à l'hôpital. C'est le deuxième sinistre de ce genre à se déclarer en quelques semaines dans le pays. Explication Laurent Rouy, RFI.
L'incendie du centre d'accueil pour réfugiés de Velika Kladuša a vraisemblablement été causé par un réchaud électrique. L'origine du sinistre montre à quel point la situation de ces populations est précaire. Environ 250 personnes, sur les plus de 600 migrants hébergés dans ce centre, se sont retrouvés sans toit. Mauvais hasard, la Bosnie avait demandé il y a quelques jours à de nombreux volontaires étrangers qui portaient une assistance aux migrants de quitter le pays, leur permis de séjour n'étant plus en règle. C'est donc avec des équipes et des moyens réduits que les ONG ont dû agir. L'Office international des migrations, une branche des Nations Unies présente sur place, a travaillé toute la journée de samedi pour trouver à abriter ces personnes à l'aide de tentes et de matelas, mais aussi en remettant en état une partie du bâtiment sinistré. La Bosnie est devenue depuis 2016 le point de passage principal vers la Croatie. Bien que la frontière soit surveillée par la police croate, des réseaux de passeurs sont très actifs. On estime que 20 000 migrants ont réussi à pénétrer en Union européenne l'an passé, notamment par cette route.
Laurent Rouy pour RFI. Michel Serres, le philosophe français, est décédé hier à l'âge de 88 ans. Il était mathématicien, sociologue, historien et analyste brillant. Son portrait avec José Marinho pour RFI.
Michel Serres, c'est avant tout une affaire de style, un amour charnel de la langue française, des puissances tapies dans les mots, la musicalité des phrases. Bien que couvert d'honneur, ce philosophe et écrivain, entré à l'Académie française en 1990, se rêvait comme l'un de ces marginaux nomades amis de la terre, plutôt que professeur ou dignitaire. Arpenteur et créatif, ouvert à la richesse de l'inattendu, ses idées, il les a développés dans la langue du peuple plutôt que dans celle des savants, comme le prouve Corpus des œuvres de philosophie en langue française. Penseur frondeur, pour qui les Français ont trouvé le moyen de faire de l'unité avec la discorde, se passionner par l'écologie et l'éducation, s'est intéressé à toutes les formes du savoir scientifique comme littéraire. Visionnaire, il a anticipé les bouleversements liés aux nouvelles technologies de la communication. Figure intellectuelle familière du grand public, Michel Serres a rendu hommage à toutes ces intelligences universelles isolées qui ont peuplé notre histoire.
Et c'était José Marinho pour Radio France Internationale. On passe à la météo ce dimanche. Perth maximale de 23 degrés, Adélaïde 16, Melbourne 15, Hobart 14, Canberra 15, Sydney 21, Brisbane 20, Cairns 24, Darwin 31 et à Alice Springs maximale de 17 degrés. Un rappel des grands titres de ce 2 juin. En Australie, le nouveau chef du Labour, Anthony Albanese, s'apprête à annoncer le cabinet fantôme et le Premier ministre Scott Morrison se rend aux îles Salomon, sa première visite à l'étranger depuis sa réélection le 18 mai dernier. L'ingérence de Donald Trump dans les affaires britanniques. Voilà, fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.